BFM Business, BFM Crypto, le club.
Comme chaque jour, notre club BFM Crypto. En effet, Pierre Noisa nous accompagne aujourd'hui, le président fondateur de Paymium. Bonjour Pierre.
Bonjour Guillaume.
Un des grands pionniers de la crypto en France et des solutions associées au blockchain, Paymium, créé en 2011.
Exactement.
Un an et demi, deux ans à peine après le Bitcoin. Quoi.
Exactement, donc dans les premières plateformes.
Wow, un pionnier parmi nous, vous nous direz quel avenir vous voyez pour cet écosystème. Grégory Raymond nous accompagne également, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory.
Bonjour Guillaume.
Le nouveau média crypto qui nous accompagne chaque jeudi. Valentin Nico aussi avec nous au téléphone. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, Valentin. Valentin, Bitcoin sous les 19 000 dollars à nouveau aujourd'hui.
Sous les 19 000, on n'a pas que du négatif. Donc comme l'intervenant précédent... Je vais souligner le fait quand même qu'on est dans un sentiment de peur globale et d'incertitude à son paroxysme quand même. On a un VIX assez plus haut à 32, un CNN index pareil en extrême pire à 16. Donc tout baisse quoi. On est à l'obligataire, les actions, matières premières et Powell on y est pour quelque chose la semaine dernière. Malgré tout, sur le marché des cryptos, on a quand même une résilience. Qui s'affirme, alors qu'on était plutôt dans le sens, encore une fois, du Nasdaq, on était très corrélé. Et là, c'est vrai que ça résiste quand même pas mal. Donc on tient malgré tout les supports sur les majeurs, à savoir Bitcoin, Ethereum. Et comme encore une fois, on peut anticiper un léger rebond dans ce marché qui a une tendance clairement baissière et à la limite presque de la panique, mais ça tient sur ce marché-là. Et si on pense que la correction sur les indices arrive à son terme et que éventuellement on peut entrevoir une détente du risque, on pourrait jouer sur du court terme un rebond sur le marché des cryptos qui tient bien mieux que par exemple le marché actions. Et pour le cas du Bitcoin, où toute la journée on était autour de 19 000 dollars, on pourrait se fixer un premier objectif à 20 500. Si on les dépasse, ce qui deviendrait quand même un fort signal d'achat. Et par contre, invalidation si on repasse sous les 18 500, même niveau qu'habituellement. Et Ethereum, on est autour des 1 300 dollars. Donc pareil, un objectif autour des 1 490 ne me paraît pas impossible sur le court terme. Mais invalidation si on repasse en dessous des 1 240. Donc voilà, c'est un marché à prendre un petit peu avec des pincettes. Ne jamais être trop large sur le niveau des stops, bien évidemment. Et puis voilà, on va quand même essayer de croiser les doigts pour que ce marché devienne plus positif de manière générale.
Merci beaucoup. Valentin Nico avec nous depuis Bourse Direct en direct, justement. On rappelle que ceux qui choisissent d'investir en crypto doivent le faire avec énormément de prudence. Bien sûr, n'y investir que l'argent dont on n'a pas besoin. Marché toujours spéculatif et volatile. Grégory, c'est l'un des coups de tonnerre de la semaine dans l'univers crypto. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, frappe un grand coup en validant l'enregistrement PSAN de Crypto.com et de 5 autres sociétés. Mais dans le même temps, l'AMF vient pour la première fois de radier une société qui avait obtenu l'enregistrement PSAN. Finalement, cet enregistrement PSAN lui est retiré. C'est la première fois que ça arrive.
Oui, c'est la première fois que ça arrive. Du coup, c'est une information assez importante. Alors, selon les informations de The Big Whale, il y avait des problèmes depuis plusieurs mois au sein de cette entreprise, des problèmes de gouvernance entre l'équipe dirigeante, les actionnaires. Et voilà, on peut aussi dire que la baisse d'activité ces derniers mois a causé un peu des problèmes. Il a fallu réduire dans les dépenses et le service compliance donc aurait été touché par ces coupes budgétaires. Et donc voilà, on en arrive à un moment où l'AMF et la CPR estiment que les mesures anti-blanchiment ne peuvent plus fonctionner convenablement.
Voilà, parfois on a besoin d'équipe en effet pour s'assurer que les choses fonctionnent comme l'AMF l'exige. Il y a un niveau d'exigence pour obtenir l'enregistrement PSAN.
Bien sûr, c'est ça. Et après, il faudra faire la lumière sur le trou de 300 000 euros qui a été cité par l'AMF. L'entreprise parle d'un piratage qui sera intervenu début septembre. Bon voilà, il faudra savoir comment ça s'est passé et si c'est vraiment un piratage.
Et parallèlement, 6 autres sociétés, au contraire, viennent d'obtenir cet enregistrement, dont Crypto.com, Société Générale Forge, l'allemand Trade Republic.
Oui, ce sont des poids lourds qui arrivent du coup sur le marché français. Donc c'est un bon signe, certes, on est en plein bear market, mais l'écosystème continue de se doter de poids lourds. Et finalement, pour les utilisateurs, c'est une bonne nouvelle.
Quel avenir pour la crypto ? Pierre, vous êtes dedans et vous avez créé donc Paymium en 2011, vraiment pionnier de cet univers, référence pour toute la communauté crypto francophone et pas que. Greenpeace a quand même annoncé cet investissement qui vous alerte, Pierre, et vous vouliez en parler, un investissement $1 million dans une campagne publicitaire anti-Bitcoin.
Oui, c'est, je pense, assez révélateur des problèmes qu'il peut y avoir avec l'écologie au sens large, c'est-à-dire des gens qui s'accaparent un sujet et qui en font un fonds de commerce, en fait, et donc qui utilisent toutes sortes de leviers pour lever de l'argent et en dépenser, en l'occurrence pour Greenpeace, mais pour mieux en collecter après. Donc je trouve ça assez dommage, puisqu'effectivement, dans le cas de Bitcoin, ils font un contresens, en fait, sur le protocole Bitcoin, qu'ils n'ont peut-être pas bien étudié, puisque le protocole Bitcoin est vertueux pour l'environnement, dans la mesure où il offre un prix plancher à l'énergie, prix plancher qui s'applique donc à des surplus d'énergie qui autrement sont à zéro, qui valent rien. Je pense notamment aux surplus d'énergie hydraulique ou plus généralement des énergies renouvelables. Il y a des mineurs Bitcoin qui peuvent arriver et acheter de l'énergie donc qui autrement est perdue, et de ce fait, ils améliorent le plan d'affaires de ces productions d'énergie renouvelable. Donc c'est vertueux, ça ne marche pas pour les énergies fossiles, avec une exception qui est le méthane relâché par les industries pétrolières, dont les pétroliers ne savent pas quoi faire parce que il n'y a pas de gazoduc avec un oléoduc, il n'y a pas nécessairement ce qu'il faut pour exploiter ce méthane, donc ils le relâchent dans l'atmosphère. Comme on le sait, le méthane est très nocif pour l'environnement, plus encore que le CO2. Donc, il y a une vertu à le brûler et à l'utiliser. Et c'est ce que font aussi les mineurs Bitcoin. Donc, les mineurs Bitcoin interviennent positivement pour l'environnement de deux façons. Sur les renouvelables, en offrant un prix plancher, et sur le méthane, en le brûlant et en le transformant en CO2, ce qui est favorable à l'environnement par rapport à la situation sans Bitcoin. Donc, Greenpeace a trouvé un problème avec ça. Peut-être qu'ils ont simplement pas étudié comment fonctionnait le minage du point de vue technique et aussi du point de vue pratique sur le terrain.
Greenpeace, c'est une grosse institution centralisée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de pardon pour l'expression, de délit de sale gueule vis-à-vis de ce qui est décentralisé de la part de certaines institutions centralisées?
Je crois que c'est pire que ça, malheureusement, pour Greenpeace. C'est-à-dire que quand une institution devient vraiment très grosse, comme c'est le cas de Greenpeace, il y a effectivement une forme d'idiocratie qui peut se développer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont recrutés par conformité à une idée, à une idéologie en interne. Et du coup, ils perdent le contact avec la réalité. C'est ça qui se passe, je pense. Et on a vu ce que ça donnait avec les écologistes allemands qui ont détourner l'Allemagne du nucléaire. Je regardais ce matin, il y a 44% de l'énergie en Allemagne qui était produite par du fossile, du charbon en particulier, à cause de ces choix-là. Donc je crois qu'il faut, quand on fait de l'écologie, il faut rester très connecté au réel, et il faut surtout pas aller dans l'idéologie, parce que là, on prend des mauvaises décisions.
Après, on a quand même le droit de challenger la consommation d'énergie de Bitcoin, et on va le faire. On va le faire. Grégory, combien Bitcoin consomme-t-il d'énergie, franchement?
Actuellement, c'est 94 TWh. Bon, quand on vous dit ça, voilà, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est comparable à la consommation d'un pays comme la Belgique actuellement. Mais ça veut tout et rien dire, encore une fois, quand on parle d'un pays. En fait, ce qui est important, c'est de regarder le mix énergétique du Bitcoin. Il serait autour de 60% renouvelable. Donc, c'est probablement mieux, en fait, que la plupart des grandes industries de ce monde. Donc, il faut le remarquer, quand même.
Est-ce que Bitcoin consomme néanmoins trop d'énergie? Ok, une partie est verte, mais c'est quand même consommateur de beaucoup d'énergie.
Oui, bien sûr. Il consomme beaucoup, mais est-ce que trop, c'est le bon terme? En fait, si on dit qu'il consomme trop, c'est certainement parce qu'on n'a pas encore bien vu quelle était son utilité sociale. Parce que, par exemple, l'air conditionné, enfin la clim, ça consomme 23 fois plus que Bitcoin. Et pourtant, on ne remet pas en cause l'utilité de la clim. En fait, je pense que pour qu'on reconnaisse l'utilité de Bitcoin, il faut qu'on reconnaisse l'utilité d'un système de paiement de pair à pair. Est-ce qu'on a besoin d'une monnaie décentralisée qui fait réserve de valeur? Peut-être pas forcément en Europe, hein, notre monnaie fonctionne quand même relativement bien, mais aller poser la question à un Argentin, à un Libanais, à un Turc, je pense qu'il serait très content de voir continuer le Bitcoin.
Oui, donc si l'on voit le Bitcoin comme un simple outil spéculatif, d'investissement spéculatif, on peut se dire que toute cette énergie, elle pourrait quand même servir à autre chose. Si on le voit comme un instrument à utilité sociale, comme une possible monnaie ou un recours pour certains peuples, là on peut se dire, oui, l'énergie utilisée et consommée pour Bitcoin, cette énergie est nécessaire.
Exactement. Mais il faut quand même souligner que Bitcoin est beaucoup plus vert qu'on le croit.
Alors justement, Pierre nous disait à l'instant, Greenpeace, ils sont gonflés quand même parce qu'ils ne se sont pas penchés sur le proof of work et sur le profil de consommation d'énergie du Bitcoin. Sur quelles sources est-ce qu'on s'appuie pour parler de la consommation du Bitcoin?
Alors il y a quand même un vrai problème sur les sources. Il n'y a aucune vraiment source hyper fiable, irréfutable. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Mais le problème, c'est que celle qui est la plus utilisée, c'est probablement la pire, c'est Digiconomist. C'est un site qui répertorie un index de consommation du Bitcoin. Bon, il fait beaucoup d'erreurs factuelles, je vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais le porteur de ce projet, c'est un ancien salarié de la Banque Nationale des Pays-Bas. Il a travaillé pour ING. C'est un adversaire du Bitcoin. Il n'est pas neutre dans son traitement. Moi, je peux recommander l'étude qui fait référence, c'est celle de Cambridge, donc qui est par l'université de Cambridge. Et donc c'est celle qui dit que voilà que le Bitcoin fait actuellement 94 TWh. Les experts sont plutôt d'accord sur ce niveau de consommation. Le problème, c'est quand ils cartographient la consommation du Bitcoin, ça veut dire à partir de quel pays voilà il y a le plus de minage dans le monde. Là par contre, ils font beaucoup d'erreurs parce qu'ils se basent sur les adresses IP et souvent les mineurs masquent leur adresse IP. Par exemple, on voit qu'en Allemagne et en Irlande, hein, selon Cambridge, il y a beaucoup de mineurs alors qu'il y a aucune installation majeure qui est répertoriée. Mais en tout cas, pour le niveau de consommation, c'est assez fiable.
L'Ethereum est passé en proof of stake et depuis que le merge a eu lieu, on lit partout qu'Ethereum, lui, est beaucoup plus vertueux énergétiquement. Est-ce que vous êtes sûr, Pierre, que les mineurs Bitcoin, alors que le merge a eu lieu et qu'en effet Ethereum va consommer beaucoup moins désormais, est-ce que vous êtes sûr que les mineurs Bitcoin n'ont pas de complexe à avoir ?
Non, parce que comme je le disais, la consommation, l'utilisation d'énergie par Bitcoin ne se fait pas en concurrence avec une autre utilisation. S'il y a une autre utilisation, ça veut dire que l'énergie est plus chère, il y a quelqu'un qui est en concurrence pour acheter de l'énergie avec le mineur, et dans ce cas, le mineur n'est plus rentable. C'est aussi simple que ça. Le mineur qui est rentable, c'est celui qui va chercher l'énergie dont personne ne veut. Sinon, il n'est pas rentable, donc il n'exploite pas de manière industrielle le minage de Bitcoin. Donc, quand on dit que ça consomme autant que la Belgique, c'est vrai pour le chiffre, mais par contre, ça consomme 0% de l'électricité qui est utilisée en Belgique. Elle n'est pas en concurrence avec les Belges pour cette électricité. On part d'Asie centrale ou d'Afrique où là, il y a des installations plus ou moins bien connectées à des réseaux et donc on a des surplus. Il faut savoir que les énergies intermittentes, elles sont à la fois pas là quand on en a besoin, mais il y a aussi des moments où elles donnent quand on n'a pas besoin. Il y a vraiment un problème d'ajustement de l'offre avec la demande et c'est de là que viennent les surplus. Donc ces surplus sont inhérents renouvelables. Le fossile, il n'y a pas de surplus. Vous pouvez stocker l'énergie fossile dans des barils et vous n'avez jamais de surplus. Vous avez un stock. Donc, on voit bien la différence et l'impact positif que peut avoir Bitcoin par rapport à cette économie des renouvelables. Donc ça, c'est très important de le comprendre quand on pense ESG et environnement. Moi-même, je suis un écologiste convaincu. C'est juste que j'ai été au bout de l'étude sur ces questions qui relèvent plus du protocole. Après, les sources, que ce soit 100 TWh ou 90 TWh par an, franchement, ça ne fait pas de différence. C'est 0,15% en gros de la production mondiale. Et dans la production mondiale, il faut savoir qu'il y a à peu près 30% qui est perdu dans des inefficacités de distribution, des inefficacités justement de stockage, parce qu'on sait mal stocker l'électricité renouvelable en particulier. D'ailleurs, les batteries sont très polluantes elles-mêmes en termes d'impact environnemental à cause des terres rares qu'elles utilisent. Donc tout ça est un truc complexe. La seule conclusion qu'on peut tirer sérieusement, c'est que la preuve de travail de Bitcoin est plutôt un impact positif sur l'environnement. Et ça, c'est important que les gens le comprennent.
Ah, vous diriez même pas que l'effet est neutre, vous diriez qu'il est positif.
Bien sûr, c'est positif. Absolument, vous avez un prix plancher sur les énergies renouvelables, vous favorisez le développement d'infrastructures de production d'énergie renouvelable. Ça, c'est factuel, c'est pas une opinion, c'est factuellement économiquement indiscutable. Après, sur le méthane, j'en ai parlé, le méthane, c'est 30 fois plus polluant que le CO2, donc si vous le brûlez, vous transformez le méthane en CO2, vous avez un impact positif. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. Et pourquoi certains mineurs Bitcoin utilisent du méthane? Parce qu'il est là encore laissé à dégager librement dans l'atmosphère.
Faudrait installer des fermes de minage sur la mer Baltique, là où il y a ces énormes fuites de méthane en l'occurrence.
Oui, alors là, il y a un sabotage. C'est encore une situation différente, mais ça prouve le problème des énergies fossiles. Ça prouve qu'il faut des alternatives. Et c'est peut-être aussi le nucléaire. On n'en parle peut-être pas assez. Il y a aussi l'énergie nucléaire qui est potentiellement une source d'énergie relativement propre, sans doute la plus propre. Et si on parle de fusion nucléaire, on a même une énergie décarboné avec des quantités d'énergie phénoménales.
Grégory, jusqu'à quel point les mineurs en proof of work, les mineurs de Bitcoin, donc, peuvent-ils participer à la transition énergétique?
En fait, c'est ce que Pierre disait très bien. Effectivement, il y a toujours des surplus, il faut absolument les utiliser et ça, ça, le minage renforce.
Par exemple, pour illustrer, une éolienne qui tourne la nuit au moment où il y a très peu de consommation d'électricité, c'est dommage, on pourrait exploiter en installant des fermes de minage cette électricité, ce qui permettrait pour le coup à la société...
Renforcer le modèle économique des producteurs d'énergie renouvelable.
C'est ça.
Mais ça, c'est ce que disent les mineurs de Bitcoin, les partisans du Bitcoin depuis des années. Et en fait, on a publié ce matin un dossier spécial consacré à ce sujet dans Zubigwell, et on est allé voir des spécialistes des réseaux électriques qui sont neutres sur le sujet, voire même assez sceptiques sur le Bitcoin. Ils trouvent que ça n'a pas de valeur. Enfin, ça n'engage que. Mais par contre, ils sont totalement d'accord sur le fait que effectivement, ça renforce le modèle économique des producteurs d'énergie renouvelable. Et à partir du moment où on a dit ça, je trouve que ça ouvre plein de perspectives.
Les barrages aussi.
Les barrages, oui, bien sûr.
L'eau des barrages, qui n'est jamais exploitée à 100% pour l'électricité, elle pourrait l'être.
Oui,
par exemple.
Mais après, le Bitcoin n'est pas la seule technique qui permettrait de stocker de l'énergie de façon, c'est de façon financière. Mais il y a aussi l'hydrogène. Donc le Bitcoin n'est pas la solution, mais c'en est une. Et comme Bitcoin ne va pas résoudre le problème climatique, le problème du réchauffement, mais ça peut être
c'est une option de plus.
Voilà, exactement.
En France?
En France, pas trop. On mine pas du tout en France. Le problème, c'est que les prix de l'énergie sont trop chers, même dans le renouvelable. Voilà. Et c'est plutôt dans les pays en développement, là où on doit faire le choix entre une centrale à charbon ou un barrage. Bon, le barrage, c'est très difficile à rentabiliser. Donc, en mettant une station de minage de Bitcoin sur ces installations, on peut faire la concurrence aux centrales à charbon.
Mais vraiment, c'est de la petite fiction et je ne suis pas du tout spécialiste énergétique, loin de là. Mais imaginons, nos centrales nucléaires, par exemple, imaginons, on met plein de fermes de minage tout autour et la nuit, on demande à ces centrales nucléaires de produire plus qu'elles ne le font d'habitude la nuit puisque tout le monde dort. Comme ça, on mine, ça permet à un opérateur comme EDF de devenir peut-être plus rentable et ainsi financer d'autres investissements, peut-être de limiter davantage la facture aussi pour les particuliers de jour.
Ça permettrait surtout de subventionner l'électricité que nous achetons de la mesure où les surplus seraient rachetés par des mineurs Bitcoin.
Mais ça, c'est pas dans un monde magique.
Ça peut être fait demain. Je pense qu'il y a des barrières idéologiques, comme on le disait pour Greenpeace. Il y a des gens dans certaines organisations qui ont des barrières idéologiques parce qu'ils ont été influencés, on va le dire, par certains lobbies qui ont intérêt à ce que Bitcoin ne se développe pas comme il devrait. Donc, ils ralentissent la progression de Bitcoin. Mais elle est inéluctable. La vérité sort toujours à un moment. On peut la mettre sous le tapis à un moment, mais à un moment, ça va sortir. Donc, je suis très confiant pour que les bonnes décisions soient prises.
Est-ce que les idées que vous vouliez aujourd'hui mettre en avant, et on y consacre du temps aujourd'hui dans BFM Crypto, dans ce club BFM Crypto, est-ce que ces idées avancent en haut lieu? Est-ce que vous le sentez?
Alors, en haut lieu, je sais pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que déjà à la base, parmi nos clients et la communauté, ce qu'on appelle la communauté des utilisateurs des cryptos, ces idées soient clairement posées sur la table, comme disait Grégory, sans parti pris et sans trou de biais. Moi, je suis pas hostile à ce que les gens fassent de la preuve d'enjeu, comme l'a fait Ethereum récemment. C'est un autre protocole qui a ses qualités, qui permet de multiplier les expérimentations. Il n'y a pas de coût énergétique, de contrepartie énergétique à ce moment-là à l'Ether. L'Ether rejoint donc un grand nombre de monnaies, similaires, un peu comme Cardano, Algorand, Tezos, etc. Donc il y a tout un groupe de monnaies comme ça qui se développe maintenant sur la preuve d'enjeu. Pourquoi pas? C'est de la monnaie en quantité illimitée parce qu'il n'y a pas de notion de contrepartie énergétique. Et Bitcoin reste l'ancrage, l'étalon énergétique dont l'économie peut bénéficier et l'environnement peut bénéficier. Donc je trouve que, je ne vais pas opposer les uns et les autres, je trouve qu'on gagne à une diversité des monnaies, ça c'est sûr.
Et donc ce merge qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines, on l'a vécu ensemble d'ailleurs, Grégory, exactement, presque en direct, le passage au proof of stake d'Ethereum, c'était il y a 2 semaines. Quel premier bilan? On voit qu'Ethereum depuis ce merge est beaucoup moins inflationniste. Est-ce que ça c'est quelque chose d'important à vos yeux, Pierre?
Alors, je pense qu'il y a une inflation nécessairement des coins preuve d'enjeu, puisqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, je dirais. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez signer des transactions, donc vous pouvez staker des coins à preuve d'enjeu. Vous n'avez pas besoin d'un matériel de minage. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Vous n'avez pas de pénalité à accepter et à gérer plusieurs de ces monnaies. Donc elles sont par nature inflationnistes, puisque l'une est forcément influencée par la quantité de l'autre. Même si vous limitez la quantité d'Ether, s'il y a Tezos à côté, Cardano et Algorand qui circulent, le staker qui a sa machine, il a pas de barrière à utiliser les autres aussi. Donc vous pouvez pas dire qu'il y a une quantité limitée de ces coins. Par contre, ils ont une utilité, je dirais, de réseau avec leur fonctionnalité, qui se ressemble un peu quand même d'un réseau à l'autre. Mais ça peut résoudre des problèmes, par exemple, de scalabilité. Si on a trop de transaction, si les fees deviennent trop élevés sur un réseau, on peut utiliser un autre comme, je dirais, comme réseau de secours.
Alors là, vous venez quand même de rhabiller pour l'hiver tous ceux qui espèrent qu'Ethereum deviendra déflationniste.
En fait, ça peut arriver dans certaines conditions. Il y a un mécanisme qui a été mis en place en août de l'année dernière qui fait que quand il y a, voilà, il y a une grosse congestion du réseau, on brûle beaucoup plus de frais. Et en fait, on peut brûler plus d'Ether qu'il y en a de créés. Donc ça peut être déflationniste à certains moments.
Sauf que quand il y a congestion du réseau, les fees augmentent, donc on n'a pas forcément intérêt à ce que ça devienne encore plus cher.
Oui, mais c'est arrivé à plusieurs occasions que voilà, l'Ether soit déflationniste. Bon, ça, sur l'année, ça, c'est pas encore le cas. Mais...
Il y a débat, et ce débat va se poursuivre. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés.
Merci, Guy.
Pierre Noisa, le président fondateur de Paymium, donc un des grands pionniers de cet univers crypto dans le monde. Et il est français. Grégory Raymond, un des grands pionniers du journalisme crypto également. Merci beaucoup, Grégory, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale. Au menu de The Big Whale cette semaine,
un grand dossier sur Bitcoin et sa consommation d'énergie.
Ah bah ça tombe bien, tiens.
Voilà.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour sur les marchés plus traditionnels. La bourse, le CAC 40 est en repli d'1,7%. À tout de suite.